Trapiblog Radio sur Marmite FM, présenté par Mehdi Litim.
Les blogueurs du Trapiblog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapiblog. Ce qui est important, c'est vraiment...
Déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapiblog Radio
sur Marmite FM,
présenté par Mehdi Litim.
On fait comme ça. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Marmite FM 88.4 pour la suite de l'émission du Trapiblog Radio sur les discriminations et les violences policières avec Cheryl. Bonjour Cheryl.
Bonjour.
Bonjour Célia.
Bonjour.
Et avec Christopher. Bonjour Christopher.
Bonjour Mehdi.
On a parlé la dernière fois des discriminations. On va parler aujourd'hui du mouvement Black Lives Matter et des violences policières. Alors, je voudrais savoir comment vous vivez en fait cet épisode médiatique et comment ce mouvement-là en fait vous touche et est-ce que ça vous parle, dans quelle mesure ça vous parle et dans quelle mesure vous avez l'impression que ça ne correspond pas tout à fait à votre réalité, Christopher.
Alors moi, par rapport à ce qui s'est passé autour de Black Lives Matter, oui, c'est vrai que les violences policières et les discriminations ont un rôle à jouer dans la vie de toute personne issue de l'immigration dans un pays occidental. Donc ça m'a touché, ça m'a impacté à partir du moment où j'ai vu des personnes qui me ressemblent se mobiliser autour de cette question qui est soulevée depuis la Seconde Guerre mondiale par des grands acteurs type Malcolm X, Martin Luther King, Mohamed Ali ou autres. Donc oui, ça fait toujours un certain effet de voir une idée qui porte la reconnaissance d'un peuple dans une société. Donc oui, j'ai été touché par ça. Et que ça soit issu des violences policières, ça m'a pas choqué, puisque pour moi, c'était un déclencheur qui était potentiel. Et en dehors de la classe sociale et des destins des quartiers, pour moi, c'était un élément déclencheur tout à fait normal, voire le seul. Et c'est souvent le cas, on n'est pas dans le cadre Rosa Parks où c'est la ségrégation, mais voilà.
Quand tu parles d'un peuple dans une société, et puis les références que tu nous donnes sont plutôt américaines, est-ce que tu vois en fait une similitude très très forte entre le discours américain sur ces questions-là, en tout cas le discours dominant en France sur ces questions-là qui vient des États-Unis, ou est-ce que tu vois quand même des différences avec la situation française et notamment quand tu parles d'un peuple dans la société, est-ce que toi tu as l'impression qu'on est dans la même situation ou pas trop?
Alors oui, je donne des références américaines, mais bon, je pense qu'il y a aussi des références françaises qu'on n'entend pas assez, mais souvent qu'on en entend parler quand on parle avec des gens issus de la même culture afro, on va dire, type Aimé Césaire ou Frantz Fanon, qui reviennent souvent. Et toutes ces questions, quand je dis peuple dans une société, c'est vraiment... la place qu'elle occupe. Donc c'est vrai qu'il y a le destin américain, mais pour moi il y a le destin français qui est complètement différent. Il est complètement différent du fait de sa durée. Pour moi ça commence à partir il y a des gens qui commencent à partir des tirailleurs sénégalais peut-être, mais pour moi ça commence vraiment à partir des années 60 où il y a cette vague d'immigration pour on va dire reconstruire la France. Et à travers ça moi, j'en déduis, et ce qui m'a sauté aux yeux un peu avec tous ces discours, c'est que pour moi, c'est encore très très tôt dans cette histoire. C'est très jeune comparé à l'histoire des Américains où il y a eu cet esclavage qui date des années début 1800. Pour moi, c'est très jeune. Et aujourd'hui, cette crise, on va dire, identitaire qu'il y a eu avec Black Lives Matter en France, qui vient des États-Unis, est un moyen d'accomplir ce chemin que les Américains ont déjà entamé depuis très longtemps. Donc nous, on est en France, pour moi, on est dans un cheminement qui va se faire. Moi, j'aime bien faire la comparaison avec le destin de populations comme les Portugais ou les Italiens qui ont subi du racisme dans l'entre-deux-guerres et qui, aujourd'hui, paraissent intégrés. On se dit comme ça, c'est normal, mais ces populations-là ont vécu du racisme très violent, un racisme très violent dans ces années-là, Salarital, ou quoi, ils ont eu ces mots-là, et aujourd'hui ils paraissent intégrés. Donc moi je pense qu'on est aujourd'hui cette identité, et des personnes qui sont issues de l'immigration, doit se faire et va se faire, et justement à travers des mouvements de revendication, et comme je disais un peu plus tôt, c'est une identité aujourd'hui d'un mouvement violent, mais quand on sort d'une domination, on se réveille avec violence. Donc pour moi, ça fait partie du cheminement.
Ok, très bien. Comment est-ce que toi, Célia, t'envisages ce qui se passe aujourd'hui autour du mouvement Black Lives Matter, la mort de George Floyd, l'affaire de la mort d'Adama Traoré en France? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et si c'est le cas, oui, pourquoi? Et puis, dans quelle mesure, quand même, tu as l'impression d'être éventuellement en décalage avec une partie du discours?
En fait, avant, j'avais une confiance aveugle envers les policiers. Je me disais que, les jeunes cherchent toujours la merde, si je puis dire, avec les policiers, parce que de toute façon, ils sont détenteurs de la paix. Sauf que j'ai vu des choses qui m'ont choquée et qui m'ont fait me dire que, en fait, il y avait certains policiers, c'était pas...
Quand tu dis que t'as vu des choses, c'est-à-dire?
En fait, ma mère, elle était devant un stop et les policiers sont arrivés en face d'elle. Enfin, ça formait un T, en gros.
Arrivés en voiture.
Oui, ils sont arrivés en voiture, ça formait un T. Et ils ont arrêté ma mère. Ils lui ont dit pourquoi elle était là. Et elle a dit qu'elle m'attendait pour que je lui ramène son appareil à diabète et pour que je lui ramène quelque chose de sucré à manger, vu qu'elle était en hypoglycémie. Après, il y a eu des incompréhensions, du coup, ils sont sortis et ils sont venus devant sa voiture, ils lui ont demandé les papiers. Ma mère est tremblée, du coup, elle lui a passé les papiers, mais ils sont tombés. Du coup, elle a ouvert la portière pour pouvoir les ramasser et leur passer. Sauf qu'ils ont pris ça comme un signe d'agression, je pense. Et ils ont commencé à lui dire... arrêter de faire des gestes brusques et tout. Après, du coup, ils l'ont tenu, ils l'ont mis sur le capot. Et ma mère, elle sentait vraiment pas bien. Elle disait qu'elle attendait juste que je lui ramène du sucre. Mais ça, le ton, il a commencé à monter. Ma mère, quand elle est en hypoglycémie, elle perd son sang-froid très rapidement. Et du coup, après ça... ça s'est vraiment mal passé parce qu'après, il y a encore d'autres policiers qui sont arrivés. Et quand je suis arrivée, ils étaient en train de la plaquer sur le capot et ma mère, elle était presque en train de hurler. Et ils étaient en train de vérifier ses papiers. Puis après, j'ai vu un geste. Une policière, elle a pris ses papiers, elle les a jetés dans un coin par terre. Et moi, je suis arrivée en courant, j'ai dit lâchez ma mère et on m'a direct mis en arrière. Et j'ai vu quelqu'un de loin qui filmait la scène et il y a un policier qui s'est rapproché de lui qui lui a dit « Ouais, arrête de filmer si tu veux pas avoir des problèmes. » Du coup, la personne a arrêté de filmer et il y avait énormément de gens qui regardaient comme des jeunes de George Sand. Et,
donc le quartier dans lequel tu habites.
Oui, et ensuite, on voit au loin une quinzaine de policiers arriver avec des fusils ou je sais pas c'est quoi leur arme, mais... on se serait cru dans un film, franchement, faut le voir pour le croire, parce que même moi, quand je raconte ça, j'y crois même plus. Enfin, c'était tellement surréaliste pour une personne faible comme ça qu'on ait ramené une dizaine de personnes, pour surtout qu'elle avait aucune arme. Enfin, ma mère. Et du coup, après.
Et ça, ça a changé, du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que ça a changé, en fait, l'image que tu as de la police.
Totalement, parce que même ma mère avait une confiance aveugle en la police. Et du coup, quand j'ai vu les manifestations et tout, mon cœur était avec eux, même si j'y étais pas totalement. Et.
Uniquement pour cette raison-là, du fait de l'expérience que tu as vécue avec la police et ta maman, ou parce que pour d'autres raisons?
Avant, vu que j'étais pas du tout dans. Les débats et tout, je me suis dit que le racisme, il est réel. Du coup, les bavures policières et tout, c'est pas inventé. Et des fois, peut-être la personne cherche, mais la plupart du temps, je pense que si ça a engendré un aussi grand mouvement, je pense que c'était qu'il y avait les preuves nécessaires pour prouver que les bavures policières, c'est réel. Je me répète, mais ça m'a bouleversée et... Au début, je me disais que les manifestations, ça changeait rien, que de toute façon, les médias, ils sont sourds, c'est un discours de sourds, ou même toute la population, l'opinion publique, elle va pas changer, ça sera toujours la même chose. Mais avec le temps, j'ai pu voir que il y a beaucoup de choses qui sont moins tolérées. Les gens se révoltent un peu plus et j'ai quand même de l'espoir et je me dis que surtout quand des personnes non racisées réagissent à notre place.
Alors, c'est quoi une personne non racisée? Quand tu dis elles réagissent à notre place, c'est quoi que tu as à l'esprit?
Une personne non racisée, je pense, c'est une personne qui subit pas de racisme, qui est souvent la plupart blanche de peau et qui vit en France. Voilà, quoi, je pense que c'est ça. Après, je pense que les personnes racisées, c'est souvent les personnes issues de l'immigration ou autre.
Et du coup, tu vois une différence entre ces deux types de populations, comme tu les appelles?
En soi, j'aime pas totalement regrouper les gens dans des cases, dire un tel est différent, un tel est différent. Enfin, moi, je prends plutôt les gens, enfin, je les mets plutôt dans un même groupe. Mais après, c'est vrai qu'il y a des particularités ou autres.
Ok, très bien. Vous êtes toujours sur Marmite FM 88.4. On est en train de parler des discriminations et des violences policières avec des blogueurs et blogueuses du Trapiblog. Du coup, toi, Cheryl, comment est-ce que tu vois ce mouvement Black Lives Matter et tout ce qui est lié aux violences policières? Est-ce que c'est quelque chose, en fait, qui te parle? Et si c'est le cas, dans quelle mesure?
Pour réagir à ce qu'a dit Célia, moi, je trouve que, même si certes, il ne faut pas mettre les gens dans des cases et tout, c'est quelque chose de nécessaire pour parler des vrais problèmes, quoi. Parce qu'après, il y a des personnes, justement, qui vont abuser de ces termes, qui vont se dire « Oh, mais non, nous, on ne voit pas les couleurs, justement », et qui vont se servir de ça pour étouffer des problèmes qui existent vraiment, quoi.
Alors du coup, qu'est-ce que tu vois, toi, comme problème qui existe vraiment et qui est lié aux couleurs, qui est vraiment spécifique aux couleurs de peau?
Le racisme qu'on subit, la différence de traitement que l'on a, et cette tendance hypocrite, vraiment, comme l'a dit Célia, en France, à se dire que ça se passe qu'aux États-Unis et qu'en France, il n'y a pas ça, quoi.
Alors du coup, comment est-ce que tu vois ce mouvement Black Lives Matter qui est importé en France, notamment à travers la famille d'Adama Traoré et le mouvement qui a été créé autour de l'affaire de la mort d'Adama Traoré? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Et si c'est le cas, dans quelle mesure?
Moi, c'est quelque chose qui me parle totalement parce que déjà, je suis une femme et que en plus de ça, ce mouvement, il a été créé par deux femmes noires. Et ce qui est vraiment noble dans ce mouvement, c'est qu'ils disent vraiment que toutes les personnes noires méritent au respect. C'est-à-dire pas seulement les hommes noirs, pas seulement les femmes noires, mais surtout les personnes LGBTQ, de la communauté afro, ou les personnes queer, transgenres, etc.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire, ça, les LGBTQ, transgenres, etc.?
En fait, quand les personnes disent soutenir le mouvement noir, ils parlent le plus souvent que des hommes noirs ou des femmes noires. Mais on va pas se le mentir, dans notre communauté, on a des discriminations envers nous-mêmes. Par exemple, envers les personnes les plus foncées, envers les noirs homosexuels ou queer ou transgenres.
Donc toi, ce que tu dis, c'est que ce qui t'intéresse dans ce mouvement-là, c'est que d'une part, ils luttent contre les inégalités faites aux noirs, les violences, les discriminations, mais d'autre part, c'est un mouvement qui va aussi lutter contre les discriminations liées au genre ou à l'orientation sexuelle.
Exactement. Et ce mouvement, il est vraiment porteur, et surtout pour les femmes noires, quoi, parce que parfois, on va avoir des hommes noirs qui vont se dire grands défenseurs de la cause, mais qui, par derrière, vont totalement descendre leur sœur noire.
Quand tu dis descendre leur sœur noire, ça veut dire quoi? Concrètement, t'as quoi comme exemple à l'esprit?
Par exemple, Aya Nakamura, je pense que c'est l'exemple parfait de la misogynie noire. La femme noire, de toute façon...
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer qui c'est?
Aya Nakamura, c'est une chanteuse de pop. Elle est très souvent la cible de critiques, de moqueries sur les réseaux sociaux. Quand elle poste une photo d'elle, on va la comparer à un homme du fait qu'elle soit assez grande et assez forte, entre guillemets. On va la comparer à un homme, on va la déshumaniser. Et c'est quelque chose qu'on retrouve déjà souvent quand une femme, elle correspond pas aux critères de canon habituels. Mais ça va surtout se retrouver encore plus accentué quand c'est une femme noire, du fait que la femme noire, elle a toujours été déshumanisée, vue comme sauvage, agressive, toujours comparée à un homme, et ça se retrouve encore aujourd'hui.
Et ça, tu dis que ça se retrouve aussi au sein du mouvement noir.
Ah oui, surtout au sein du mouvement noir, oui.
D'accord. Christopher, oui, tu voulais prendre la parole là-dessus.
Oui, moi, par rapport à... C'est vrai que ça me fait penser à un problème autour de la mixité. En fait, c'est qu'on en revient un peu à tout ce que soulève le mouvement Black Lives Matter, donc les violences policières, mais aussi les discriminations envers les minorités. Et cette mixité, elle est induite par là où on vit. Et là où on vit, déjà, ça crée un délit de faciès, puisqu'on se dit ces personnes-là sont identifiées, donc dans tel lieu, il y a tel risque, il y a telle délinquance, etc.
Tu parles par exemple de la ville de Trappes.
Je parle par exemple de la ville de Trappes, où Célia a pu vivre cette histoire justement avec sa mère. Et d'autre part, ça me fait penser que cette identité-là, en fait, elle est tellement intégrée qu'il y a une sorte d'auto-victimisation. Et en fait, moi, c'est vraiment ce que je refuse et ce qui m'a un peu dérangé, en fait, avec l'appropriation qui s'est faite dans les médias du mouvement. C'est qu'en fait, on est un peu, et c'est un peu une tendance dans le mouvement noir, c'est qu'on est un peu c'est un appel à l'aide à ceux qui ont été, entre guillemets, les bourreaux. Et cet appel à l'aide, c'est aussi il montre aussi qu'en fait on est à la recherche d'une légitimité, mais on ne sait pas où la trouver. Et cette légitimité, est-ce qu'on doit aller la trouver auprès de la République, qui, par ses statuts, nous montre bien son passé colonialiste, ou est-ce qu'on doit la retrouver auprès de notre propre communauté? Et justement, ce qui a été dit, c'est que on voit bien qu'à l'intérieur même de cette communauté, il y a des problèmes de légitimité, on ne sait pas comment s'identifier, et même on déshumanise ceux qu'on appelle, entre guillemets, nos propres frères. C'est un mot, mais bon, ce sont les frères de couleur. Et ça, c'est vraiment un travail qui doit être fait. Et c'est pour ça que je dis que c'est un processus, parce qu'il y a aussi à la fois il y a un processus d'intégration, mais il y a aussi un processus d'acceptation de ces confrères.
Et quand tu parles d'intégration et d'acceptation, c'est dans quel cadre tu parles? Parce que tu disais la République colonialiste, tu dis qu'il y a des soucis au sein de ce groupe qu'on peut appeler groupe de pression dans la mesure où elle se mobilise. Donc, tu es dans quel cadre, là, quand tu parles d'acceptation et d'intégration?
Alors, dans le cadre d'un pays comme qui est la France ou qui peut être les États-Unis. Donc, ça, c'est un processus d'intégration. Donc, voilà, de ces anciennes colonies, France, Guinée ou autre. Et d'un côté, il y a un processus d'acceptation de cette histoire et aussi de la destinée que, justement, ces pays colonisés vont devoir prendre. Et ces identités, elles passent par aussi l'acceptation des personnes qui composent son propre groupe. Donc c'est vrai que l'homme noir devra aussi accepter la femme noire et ne pas chercher une certaine, hypervalorisation de la femme blanche, et c'est François Fanon qui en parle très bien, de cet esprit qui est à la recherche d'un objet sacralisé et qui se détourne des valeurs de sa propre culture ou de sa culture ancestrale, si on peut l'appeler comme ça.
Comment est-ce que vous voyez ça, Cheryl et Célia, vous, le rapport entre les Noirs entre eux, hommes-femmes, au sein de ce groupe? Vous d'ailleurs qui êtes métisse, hein. Et le rapport qu'il peut y avoir en fait avec les gens qui sont en dehors de ce groupe. Et je rappelle que vous êtes toutes les deux métisses. Oui, Célia.
Moi déjà, je trouve qu'en fait, il y a une rivalité déjà dans toute l'Afrique. Étant donné que je suis maghrébine et africaine du Sud, la rivalité, je la vois très bien dans mes deux familles ou même dans les gens que je rencontre dehors. Enfin... Quand il y a par exemple, une bavure policière, on va souvent dire oui, mais les Arabes aussi, oui, mais les Asiatiques aussi, oui, totalement. Mais je trouve qu'on devrait plutôt s'unir au lieu de se descendre nous-mêmes. Et souvent, j'ai l'impression que les Noirs comme les Maghrébins ou même autres cultures, ils se descendent entre eux. Et en même temps, ils sont amis. Enfin, dans mon entourage, j'ai vu ça en tout cas. On me dit, oui, mais les Noirs, c'est mes frères. Ou à l'inverse, oui, mais les Arabes aussi, c'est mes frères. Mais quand ça va plus loin, par exemple, quand ta petite sœur, elle sort avec un Noir, tu vas direct dire « Oh non, je veux pas qu'elle sorte avec un noir. »
Pour un maghrébin, tu veux dire.
Totalement. Et je trouve que, enfin, c'est... Du coup, on est un peu la risée des pays, alors que dans notre propre communauté, même si j'aime pas trop faire des groupes séparés, dans notre propre communauté africaine, on se descend entre nous. Il y a du colorisme, il y a du racisme entre nous-mêmes.
Du colorisme, c'est quoi ?
Le colorisme, c'est par exemple une culture, en gros, plus tu vas devenir clair, plus tu vas avoir des cheveux qui se mélangent un peu au standard de France ou autre, ben, plus tu vas être accepté et plus tu vas être belle. Par exemple, une fois, j'ai entendu ma tante dire à la copine de mon cousin « Oh, t'as les cheveux crépus, c'est dommage. Moi, mes nièces, elles ont des beaux cheveux. » Et en fait, avoir des cheveux crépus, c'est pas avoir des moches cheveux, au contraire. Enfin, chacun a sa nature de cheveux. Et le colorisme, il est beaucoup influent, je trouve, dans l'Afrique du Sud. Et
quand tu dis Afrique du Sud, c'est l'Afrique noire, en fait.
Oui, voilà. Mmh. Okay. C'est vraiment... Ça fait un peu... Ça donne aussi un peu un regard hypocrite quand on veut parler d'inégalité alors qu'il y en a même au sein de l'Afrique même.
Toi, Cheryl, sur ces questions-là, donc t'en as parlé déjà tout à l'heure, tu disais que c'était un peu l'intérêt du mouvement, de donner la parole même à celles qui sont pas dans dans des situations de pouvoir. La question que je voudrais te poser quand même, c'est quelle sortie, quelle issue tu vois à ces questions-là et comment tu vois ce problème se régler ?
Je pense que le mieux, bah, c'est qu'on arrête en France de jouer les colorblind, de jouer les « Oh, mais il n'y a pas de racisme ici. Oh, mais on ne va pas en parler. Ça n'existe pas. » Je pense qu'il faut tout expliquer, que ce soit pas juste pour la communauté noire, mais pour toutes les communautés qui sont victimes de discrimination, en parler le plus tôt possible. Et ça commence dès l'enfance, dès les classes de primaire, en parler bah, de nos différences, de ne pas esquiver le problème comme s'il n'existait pas, quoi. Après, bon, je suis pas utopiste non plus, je vais pas non plus dire que bah, tout va se régler en une seule journée ou quoi, mais ça va prendre du temps, certes, mais je vois quand même que les gens sont de plus en plus fiers de leur identité. On a pu voir, bah, par exemple, dans les années 2010, avec le mouvement Nappy, il y a de plus en plus de personnes qui sont fiers de porter leurs cheveux, de plus en plus fiers de porter bah, leurs cheveux naturels, et ça évolue, certes, assez lentement, dommage, mais c'est comme ça que ça évolue.
Mais du coup, toi, ce que tu dis, c'est que le fait qu'il y ait des discussions sur ces sujets-là, ça va faciliter la résolution du problème.
Oui, qu'il y ait des discussions sur ce sujet, mais et que surtout, ça soit médiatisé, pas que ça soit... passer sous silence.
Ok. Donc vous êtes bien sur Marmite FM 88.4. On est sur une émission du Trapiblog Radio concernant les discriminations et les violences policières. Christopher, sur ce sujet.
Moi aussi, pour un peu conclure et aller vers une porte de sortie. Voilà, moi je pense qu'il y a aussi ce côté où bah, on va arrêter de faire les colorblind. C'est un peu comme aux États-Unis, voilà, de pouvoir mettre un visage sur les discriminations. Et c'est un peu ce que la France a un problème récurrent à faire, puisque la France, dans ses valeurs liberté, égalité, fraternité, il y a vraiment ce côté où l'égalité ne permet pas l'équité. Et en fait, quand on ne met pas les yeux sur l'équité, bah, on ne peut pas permettre à toute personne soit d'atteindre l'idéal méritocratique de l'éducation ou l'idéal de développement personnel. Donc moi, je pense qu'il y a vraiment ce côté où cette acceptation de sa propre culture et à côté aussi apprendre de la culture française, puisque c'est les beaucoup de personnes qui étaient dans ces manifestations sont des Français, donc ils ont aussi à apprendre de la culture française, à l'accepter, à ne pas rentrer en conflit direct avec cette culture-là, mais aussi l'accepter. Et je pense que quand on arrive à vivre avec deux identités mais qui ne rentrent pas en conflit, du coup on a accepté son passé et on accepte son présent, bah on peut avancer. Mais tant que à l'intérieur de soi il y aura toujours un conflit entre ses origines et son présent, ça sera compliqué de construire quelque chose de pérenne.
Ok. Célia, toi, du coup, comment est-ce que tu vois une issue à cette question-là? Est-ce que tu es aussi sur la même approche que Cheryl et Christopher, qui consiste à dire qu'il faut quand même parler de ça, il faut parler de cette question-là, et de travailler, en fait, sur la mémoire des parents, la culture des parents, et puis la culture française?
Ouais, je suis totalement d'accord. Je trouve qu'il y a beaucoup de non-dits, et parler, je pense que ça résout vraiment la plupart de tous les problèmes. Il y a vraiment un avenir après. Après, je suis pas dans un discours communiste en mode tout le monde doit être égal et tout ça, mais c'est bien d'avoir quelques différences, mais pas des différences qui soient vues péjorativement ou autre.
Ok, très bien. Bon, bah merci à tous les trois. Merci à toi, Cheryl. Merci à Célia. Merci à Christopher pour cette émission sur la discrimination et les violences policières. Merci à Marmite FM 88.4 et à très bientôt sur les antennes de Marmite FM pour une nouvelle émission du Trapiblog Radio. Trapiblog Radio sur Marmite FM présenté par Mehdi Litim.
Les blogueurs du Trapiblog prennent le micro.
Une émission de débat avec les blogueurs du
Trapiblog. Ce qui est important, c'est vraiment...
Déjà en 2002, je m'intéressais à ce qui se passait en France.
Justement, j'aimerais rebondir sur...
Dans le fond, c'est quelque chose qui nous concerne tous.
Le Trapiblog Radio
sur Marmite FM
présenté par Mehdi Litim.
On fait comme ça.